Bonjour, bienvenue sur Mediapart. Aujourd'hui, je reçois l'anthropologue Clément Déhay, spécialiste du Soudan à l'Université Paris 8 et membre du réseau de recherche NORIA. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous éclairer sur la situation politique au Soudan, un pays parmi les plus pauvres au monde, qui est porté depuis plus de 6 mois par un élan révolutionnaire extraordinaire. Tout est parti de la volonté du gouvernement de tripler le prix du pain. Depuis, nous avons assisté à la chute d'un dictateur, Omar al-Béchir, quasi 30 ans de pouvoir sans partage. Aujourd'hui, le Conseil militaire de transition a signé un accord avec l'opposition, les forces civiles de l'opposition, pour un partage du pouvoir, une présidence tournante. Mais cet accord nous laisse perplexes parce qu'il intervient un mois après des exactions, un massacre, une violence inouïe avec des corps de manifestants jetés dans le Nil. Est-ce que vous pouvez donc nous éclairer pourquoi les militaires soudanais partageraient-ils tout d'un coup le pouvoir?
Alors, il s'est passé plusieurs choses depuis le 3 juin, donc le jour du massacre auquel vous faites référence, où il y a eu un sitting qui a été dispersé particulièrement violemment. D'abord, les forces de l'opposition se sont réorganisées. On a cru pendant un moment que cette opposition et que la rue soudanaise avait été brisée. En fait, un mois après, le 30 juin, on a une manifestation qui est gigantesque à Khartoum avec des millions de personnes dans la rue. C'est vrai, c'était vrai, les images sont vraiment très impressionnantes. Et en même temps, vous avez aussi une pression internationale qui s'est accrue, notamment de l'Union africaine sur les militaires, parce que la répression a particulièrement choqué, les images ont choqué. Donc les militaires ont dû accepter un deal, un accord auquel ils étaient opposés depuis le début, puisque les négociations sur cet accord datent de la chute d'Omar el-Béchir. Donc dès début avril, mi-avril, on a les négociations sur cet accord. Et cet accord n'a pas changé. Donc la répartition du pouvoir, donc on a aujourd'hui dans l'accord, donc avec 5 militaires, 5 civils et une personne choisie par les deux bords, est très proche de ce que proposait déjà l'opposition civile mi-avril. Donc ce qui a changé, c'est le rapport de force entre l'armée et l'opposition.
Et quelles sont les garanties laissées par les militaires qui laissent véritablement tourner le pouvoir? Est-ce qu'on a des
Il n'y a
garanties?
aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Cet accord, il est quand même. C'est un accord de papier pour l'instant. On ne sait pas exactement les contours exacts. On ne sait pas qui, dans le gouvernement, dans les institutions, va avoir quel pouvoir. Normalement, dans cet accord, il n'y avait pas de droit de veto de ce Conseil souverain sur un gouvernement civil parallèle qui devait être mis en place. Finalement, les militaires veulent un droit de veto sur les décisions du gouvernement civil. Donc, les civils s'y opposent toujours. Donc, on est toujours sur un accord qui est encore flou. Les militaires ont accepté, ont fait un premier geste d'apaisement parce qu'ils étaient dos au mur. Ils sont en position de faiblesse. Par contre, ils n'ont pas l'air décidés du tout à lâcher le pouvoir. Ils vont avoir 21 mois de la présidence de ce conseil pour assurer leurs arrières et pour peut-être essayer aussi de briser la contestation.
Et aucune garantie ne leur sera imposée.
C'est tout l'enjeu. Après, c'est tout l'enjeu. Il n'y a pour l'instant aucune garantie. C'est un accord. Tout le monde l'a signé. Personne ne fait vraiment confiance aux militaires. Les militaires ne font pas confiance aux civils. Donc, de toute façon, on est dans une dynamique qui est assez compliquée. Par contre, il fallait aussi briser l'autre dynamique est celle de la violence qui était en train de prendre le pas. Et donc, au moins, c'est un accord qui permet un apaisement et une reprise du dialogue. Après, évidemment, les militaires ne vont pas lâcher le pouvoir. Ils n'ont pas donné de garantie particulière aux civils, à part que dans 21 mois, la présidence de ce conseil-là sera aux civils et que le gouvernement sera un gouvernement civil technocratique.
Mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau conflit. Qu'est-ce qui se passe en cas de conflit? Est-ce que c'est pas le risque d'un bras de fer permanent qui ferait que c'est le plus fort qui l'emporte, c'est-à-dire l'armée?
Alors, déjà, cet accord, il a été pris assez moyennement par la rue soudanaise. Qui trouvent que c'est une sorte de trahison de leur leader par rapport aux idéaux de la révolution, qui était de demander un gouvernement civil et la chute du Nizam, donc du système soudanais. Là, le système de l'ancien régime reste en place. Donc, il y a une forme de déception dans la rue qui reste très active, qui a déjà appelé à des nouvelles manifestations. Donc, le rapport de force va rester en place pendant un moment. Et de toute façon, c'est ce que prévoient les leaders de la contestation, donc le SPA, donc l'Association des professionnels soudanais, qui a mené la contestation depuis 6 mois, prévoit de faire un appel régulier aux grèves et à la rue en cas de conflit et en cas de bras de fer avec le régime. Dans le rapport de force, aujourd'hui, les militaires ont évidemment des armes et des hommes, et l'opposition n'a que la rue et la grève.
Alors, on va justement parler du numéro 2 de la junte militaire, que l'on appelle Emiti. Son nom, c'est Mohamed Hamdan Dagalo, qui est le chef des RSF, les Rapid Support Forces. Est-ce qu'on peut avoir confiance en un homme pareil, qui est un brigand, un criminel de guerre notoire, qui a fait ses armes dans le nord du Darfour et au Soudan du Sud, et qui est une pièce maîtresse de la répression?
Emiti, c'est le produit avant tout de la guerre du Darfour. Il appartient à des tribus arabes du Darfour qui ont été manipulées et utilisées par le régime pour réprimer les rébellions de d'autres groupes du Darfour. Il a réussi à rassembler autour de lui énormément d'anciens miliciens de cette guerre-là, et il est loin d'être seulement le brigand qu'on a tendance à voir. C'est quelqu'un qui a une intelligence politique assez forte, et surtout qui dirige la force militaire la plus importante au Soudan en ce moment, qui est aguerrie, qui combat au Yémen aussi pour l'Arabie Saoudite, qui s'occupe des frontières, qui a bloqué l'immigration aux frontières de la Libye. Et donc on est sur quelqu'un qui a un pouvoir énorme, auquel évidemment personne ne fait vraiment confiance, parce que c'est un militaire, ou en tout cas c'est un milicien, qui a été intégré dans l'armée, qui également a des intérêts économiques très forts liés à la guerre au Darfour, donc qui n'est pas quelqu'un qui va nécessairement vouloir la paix, ou en tout cas une paix au Darfour, mais à ses conditions, c'est-à-dire qui lui permettent de garder le contrôle sur les acquis économiques que lui, ses hommes et les clans qu'ils défendent ont pris durant cette guerre. Et donc, on est vraiment sur quelqu'un qui est assez complexe, qui est inscrit à la fois au Darfour, mais aussi au Tchad, parce que un de ses cousins est le chef d'état-major de l'armée au Tchad. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas qu'une dynamique seulement soudanaise, mais qui dépasse les frontières du Soudan. Et par contre, très clairement, la rue du centre de Khartoum, du centre du pays, ne fait absolument pas confiance à cette personne, qu'ils perçoivent justement comme un brigand ou comme un barbare. Ce qu'il n'est pas nécessairement. C'est une image après qui rentre dans les structures du pays. C'est-à-dire que le pouvoir au Soudan a toujours été contrôlé par les gens de Khartoum et par un certain nombre de tribus qu'on appelle les tribus riveraines, donc des tribus arabes qui vivent le long du Nil. Et Emiti n'en fait pas partie. Et donc, dans cette dynamique-là, il est relativement mal accepté dans la rue soudanaise.
Mais il est incontrôlable, comme vous venez un peu de le décrire, et il pourrait aussi se retourner contre l'armée.
Et une partie de l'armée, en tout cas, est relativement hostile à ces milices, parce que ces milices ont pris énormément de pouvoir, ont remplacé progressivement l'armée dans son rôle régalien de combat. Ce ne sont pas des militaires qui ont été envoyés au Yémen, ce sont ces paramilitaires de Emiti qui ont été envoyés, par exemple. Et donc, l'argent qui vient aussi d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, est drainé dans ces forces-là et pas dans l'armée. Donc il y a évidemment des jalousies. Par contre, il n'est pas non plus incontrôlable. Il est sur une pente qui est assez difficile, le Emiti, parce qu'il doit faire attention à la fois à ses parrains internationaux, à la fois aux militaires soudanais, et en même temps, il a eu aussi une base sociale au Darfour qui compose majoritairement ses hommes. Donc on est sur quelque chose qui est assez compliqué à gérer pour lui, et qui aussi explique le fait que de temps en temps, il est assez sympathique envers les révolutionnaires, et d'autres fois, il va envoyer ses hommes pour les massacrer. Donc on est quand même sur quelqu'un qui n'est pas incontrôlable, mais dont la stratégie est dictée par autre chose que l'armée en elle-même.
Aujourd'hui, comment se structure la révolte? On a notamment l'APS, l'Association des professionnels soudanais, qui est intéressante et qui est beaucoup décrite comme un petit peu un des moteurs de la révolution. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
L'APS est un des composants de l'opposition. L'APS renaît en fait à partir de... Alors, l'APS en tant que telle est créée en 2016. C'est un conglomérat, une plateforme pour différentes associations professionnelles, sachant qu'au Soudan, les syndicats d'opposition sont interdits depuis la prise de pouvoir d'Omar al-Béchir en 89. Ils ont été supprimés, les dirigeants de ces syndicats ont été persécutés, arrêtés, torturés. Sauf qu'à partir entre 2005 et 2010, il y a un certain nombre d'associations professionnelles, donc pas directement des syndicats, qui vont commencer à se reformer. dans les professions libérales notamment, donc journalistes, médecins. Et donc, il va y avoir une accélération de cette recréation, reformation des syndicats qui va aboutir en 2016 à la mise en place d'une plateforme donc, professionnelle, associative, de ces différents groupes qui vont, au cours des années 2010, vont avoir de plus en plus de place dans les luttes sociales. Donc il y a de grandes grèves dans les hôpitaux qui sont menées par les comités de docteurs, il y a des grèves dans l'éducation qui sont menées par les comités d'enseignants qui sont rattachés à cette plateforme-là. Et donc en décembre 2018, quand la contestation apparaît, c'est une des seules formes organisées au Soudan d'opposition qui a un lien direct avec la population, puisque les partis d'opposition sont très affaiblis, et qui a une forme de légitimité puisqu'ils ont mené des luttes les dernières années qui les ont fait connaître. Et donc en décembre 2018, au début de la contestation, ils appellent à une marche sur le palais présidentiel pour présenter un mémorandum au président. Et cette marche va être le déclencheur de leur notoriété. Et donc les gens vont commencer à suivre progressivement cette APS. Par contre, la direction de ce groupe est restée dans la clandestinité pendant quasiment l'ensemble de la contestation. Certains ont été arrêtés, ont été retrouvés par le régime et ont été arrêtés. Ce sont majoritairement des militants chevronnés qui ont l'habitude depuis les années 80, 90, soit de la clandestinité, soit des luttes différentes. Et donc, c'est eux qui ont mené majoritairement cette contestation. Par contre, c'est un leader aussi par le haut, c'est-à-dire que ce sont des professionnels donc de professions très éduquées, très diplômées, qui ne représentent pas l'ensemble de la population, mais bien des classes moyennes ou des classes supérieures. Au niveau local, ce sont plutôt les comités de résistance des quartiers qui vont structurer la contestation.
Et aujourd'hui, justement, toutes les couches sociales sont représentées dans le mouvement où, comme je dis, on retrouve essentiellement des classes moyennes, des classes très éduquées.
Comme un peu partout, malheureusement, dans le monde politique, il y a un effet de sens. Dans le sens où c'est difficile pour les classes populaires d'accéder au monde politique. Et au Soudan, on retrouve la même dynamique où ce sont plutôt les classes moyennes et les classes supérieures qui sont représentées dans les mouvements d'opposition, dans les mouvements de contestation. Ça ne veut pas dire que la population n'est pas en accord avec une partie des revendications du SPA et d'autres mouvements de contestation, mais il y a une différence de classe qui se fait, qui est importante.
Qui se
ressent beaucoup encore aujourd'hui. La plupart des négociateurs sortent de l'université de Khartoum, sont diplômés de l'université de Khartoum ou des grandes universités soudanaises, dans un pays où la majorité de la population ne va pas à l'université. Ils sont issus majoritairement du centre du pays et assez peu du Darfour et d'autres périphéries. Donc il y a un effet de loupe de classe qui est assez important dans ce mouvement. Et on l'a vu dès le début des négociations en avril, la première délégation qui est envoyée ne contient que des hommes et que des hommes des classes supérieures. De vieilles familles. Donc, on n'est pas rien de très surprenant non plus. Mais par rapport à un mouvement où on disait qu'il y avait une présence féminine importante dans la contestation, ça a été un retour aux réalités du monde politique soudanais. Donc, les gens soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent. Les manifestations pendant les 6 mois. Donc jusqu'à la chute d'Omar el-Béchir, ont été beaucoup le fait de jeunes étudiants, de jeunes des classes moyennes. Mais ça ne veut pas dire que le reste de la population ne soutenait pas. Le reste de la population a par contre beaucoup plus de difficultés à aller manifester.
Parce qu'ils doivent gérer un quotidien très difficile.
Exactement, et aussi parce qu'ils ne sont pas réprimés de la même manière. Les forces de sécurité tirent directement dans les quartiers populaires, alors qu'elles ne tirent pas toujours dans les quartiers des classes moyennes. Donc il y a aussi un effet sur la répression.
Bien sûr. Du coup, la répression est une clé importante pour comprendre également cette révolution. Alors, l'APS, on a beaucoup parlé de cette association comme une avant-garde un petit peu politique, notamment parce qu'elle savait porter plusieurs thématiques. Alors, la question des femmes, la question des victimes de guerre, la question des chômeurs, des déplacés, des exilés. Est-ce que c'est ça qui a été aussi une de ses forces? Est-ce qu'elle est véritablement à l'avant-garde politique?
L'APS, malgré sa structure, comme on l'a dit, de classe un peu particulière, par contre a réussi, une des premières forces politiques soudanaises, à se saisir vraiment d'un certain nombre de problèmes, notamment de la guerre, parce que directement dans les revendications, l'APS demande l'arrêt de la guerre et des négociations de paix dans les zones en guerre, dans les 6 premiers mois de la prise ou de la chute du régime. Et donc c'est quelque chose de très fort et qui a parlé à beaucoup de gens. Ils ont demandé également à ce que les futurs conseils législatifs, etc., soient composés de plus de 40% de femmes. Donc on a évidemment une sensibilité là-dessus qu'on ne retrouve pas nécessairement dans leur propre composition, mais en tout cas, il y a une sensibilité. Ça fait partie de leur... Ça fait partie de leur succès. Leur succès aussi tient dans les slogans qu'ils ont utilisés, tient beaucoup dans les liens qu'ils ont réussi à créer avec les comités révolutionnaires de quartier, parce qu'ils ont réussi assez rapidement à sortir de leur clandestinité, c'est-à-dire à prendre contact avec la population dans les quartiers et à donner... Enfin, à faire un aller-retour sur les slogans, les discours, et à s'approprier une partie des revendications qui n'étaient pas nécessairement les leurs au début. Donc, il y a eu un aller-retour entre les deux qui explique beaucoup leur popularité, et aussi quelque chose de très fort qui est assez rare pour être souligné, c'est-à-dire que quand ils ont fait des erreurs, ils ont aussi présenté leurs excuses et dit qu'ils avaient fait des erreurs, notamment sur cette question de la composition des négociateurs. Ils ont reconnu avoir fait une erreur et ont changé leur fusil d'épaule. Et donc, c'est quelque chose qui a donné aussi un peu confiance à une partie de la population dans ces représentants-là.
Alors, vous l'avez dit, l'opposition soudanaise est très affaiblie, elle est très morcelée. Comment vous l'expliquez ?
Alors, l'opposition soudanaise, il y a des centaines de partis soudanais. C'est vraiment un puzzle très compliqué parce que vous avez des partis, des groupes rebelles armés qui viennent donc majoritairement des régions en guerre. Vous avez des partis qui sont issus des groupes confrériques, donc qui sont des partis confrériques donc liés aux confréries soufis, qui sont les partis les plus importants historiquement depuis l'indépendance. Vous avez les partis islamiques, vous avez les partis communistes, basses, etc. Donc c'est très compliqué de les mettre tous ensemble puisqu'ils ont des référents à la fois idéologiques et des ressources qui sont différentes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas implantés tous aux mêmes endroits, avec les mêmes populations qui ont les mêmes besoins et demandes. Et donc les mettre tous ensemble est extrêmement compliqué, notamment entre les anciens partis confrériques qui ont mené le pays à chaque moment de démocratie depuis l'indépendance et qui ont mené le pays donc à la faillite aussi économique, et d'autres partis plus à gauche et plus radicaux comme le Parti communiste et les partis, eux, régionalistes qui se réclament d'un multiculturalisme et opposés à la vision arabiste et islamiste en vogue au sommet de l'État depuis l'indépendance. Donc on est vraiment sur des choses où il y a une vraie difficulté à s'entendre sur les problèmes. La seule chose qui les réunit aujourd'hui, ça a été l'opposition à Omar el-Béchir et au système du NCP, donc du National Congress Party, et donc une opposition aux frères musulmans, parce que c'est aussi les frères musulmans qui avaient le pouvoir au Soudan, et une reconnaissance de dire que la crise économique est en grande partie due à la guerre. Donc il y a ces seules deux choses-là qui les réunissent aujourd'hui, donc la fin de la guerre et la fin du système. Sur le reste, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. On va voir comment ça va se dérouler. Et leur unité, elle vient de leur opposition face à l'armée pour l'instant.
Elle peut donc devenir un handicap, cette opposition morcelée du fait de ces idéologies.
Ça a déjà été le cas dans toutes les négociations, puisque certains partis étaient opposés à toute participation militaire dans les gouvernements, d'autres... pas du tout. Certains ont des liens avec l'armée historique, d'autres ont participé à des gouvernements à un certain moment. Donc on est vraiment sur des positions qui sont très éclatées, qui ont déjà été difficiles pendant les négociations et qui vont être encore plus difficiles dans les mois à venir. Par contre, si l'armée garde cette même attitude de défiance et de manipulation, le bloc d'opposition va rester relativement homogène, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que même économiquement, le Soudan connaît une crise économique qui est très très profonde. Vous avez une partie de l'opposition qui est plutôt volontariste à vouloir relancer des investissements dans des infrastructures, d'autres qui sont vraiment complètement sur du libéralisme économique très fort. Donc on est vraiment, va y avoir des oppositions très violente sur la question économique dans les mois à venir.
Ouais. Justement, c'est l'une des racines les plus profondes de ce soulèvement, c'est la question économique. Est-ce que vous pouvez nous donner les autres raisons, parce qu'on a vu que le prix du pain, qui était voué à être multiplié par 3, a fait sortir en masse la population, mais ce n'est pas la seule raison.
Non, le prix du pain, c'est plus le déclencheur d'un problème beaucoup plus profond. Le moment coïncide aussi, et ça fait aussi penser à l'Algérie dans ce sens-là, à un moment où Omar el-Béchir fait voter par l'Assemblée la possibilité de se représenter à un mandat en 2020. Donc on est aussi sur l'idée de voir l'avenir bouché, sans évolution possible pour les Soudanais. Alors ça, c'est plus sur de l'événementiel, mais sur les racines longues, elles sont évidemment économiques, mais elles sont aussi dans un niveau de question de justice et de dignité. C'est-à-dire que les gens, progressivement, pendant des années, ont vu la corruption s'aggraver, ont vu des gens s'enrichir, et par contre, eux, leur niveau de vie s'affaiblir fortement. Il y a la séparation du Sud-Soudan en 2011 qui le Sud-Soudan emmène le gros des réserves pétrolières et donc des réserves de devises de l'État. Il y a une énorme crise économique et donc les gens qui s'étaient un petit peu enrichis grâce au pétrole ou en tout cas il y avait un petit peu plus d'argent en circulation dans le pays se sont vus d'un seul coup revenir aux années 90, aux années noires, aux années de difficultés économiques très fortes. Et en même temps, tous les services publics, le Soudan est un pays qui avait beaucoup de services publics dans les années 70-80 qui ont été mis en place, des hôpitaux publics, des universités publiques, une éducation gratuite. Donc il y avait des choses comme ça, mais qui ont été rongées progressivement par la mise en place d'un libéralisme économique par le régime et qui a privatisé progressivement l'ensemble de ces services. Et donc vous avez à la fois cette fatigue économique et en même temps une fatigue face au discours idéologique du régime. C'est-à-dire que ce régime a bénéficié dans les années 90 de la part de la population d'un petit peu de... Bon, les gens attendaient de voir. Il y a une partie des gens qui ont adhéré au projet un petit peu révolutionnaire, puisque comme on l'a dit un petit peu avant, les gens qui ont pris le pouvoir sont des frères musulmans, qui ont un projet radical de changement de la société, modernisateur dans un sens, de libéralisme économique aussi, et la population a adhéré un petit peu au début, ou en tout cas a laissé les choses se faire en grande partie. À partir des années 2000, des crises économiques et de la poursuite des guerres, de la reprise de la guerre au Darfour, cette question idéologique ne fonctionne plus. Il y a l'emprise idéologique, l'hégémonie idéologique qu'avaient les frères musulmans ne fonctionne absolument plus et la défiance augmente progressivement et va se traduire dans des termes économiques, mais pas seulement. Il y a aussi la question de la démocratie, de la question de l'accès des femmes à l'espace public. Il y a énormément de choses derrière qui touchent en fait différentes catégories. Et c'est là où on est dans un moment un peu révolutionnaire, c'est que ces différentes catégories et ces différentes personnes, donc les gens du Darfour qui subissent la guerre depuis 15 ans, les classes moyennes qui subissent la crise économique, les marginalisés de différentes sortes, les crises, les différentes grèves dont on a parlé, vont s'agréger. Ils n'ont pas tous les mêmes revendications. Par contre, ils cherchent tous le même coupable et c'est le régime qui est en place.
Il y a une véritable apathie diplomatique à l'échelle européenne en tous les cas. Comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à cette apathie. La première raison, c'est que le Soudan, du fait de l'embargo économique mené par les Américains depuis la moitié des années 90, est devenu un pays périphérique qui n'intéresse pas plus que ça les chancelleries. Les chancelleries occidentales, et notamment la France, vont réfléchir au Soudan au travers de ses alliés régionaux, donc de l'Égypte, du Tchad pour la France. Et du prisme migratoire, mais du coup c'est la deuxième partie qui va expliquer la relative apathie continue donc des Français encore aujourd'hui. C'est la question migratoire où le Soudan, à partir de 2014, il y a un processus de contrôle des flux migratoires qui se met en place, donc le processus de Khartoum, où les Européens ont négocié avec Omar el-Béchir qui est quand même au même moment poursuivi par la CPI, donc la Cour pénale internationale, ce qui n'a pas empêché les Européens de négocier sur la question migratoire avec lui. Et on retrouve, pour contrôler les migrations, en partie les milices dont on parlait tout à l'heure, donc les RSF, les Rapid Support Forces de Hemeti, qui vont contrôler la frontière libyenne. Donc on retrouve déjà des acteurs dont on parle aujourd'hui. Et cet accord a relativement bien marché, puisque il y a eu une baisse de migration d'Érythréens, Éthiopiens et Soudanais qui passaient par le Soudan pour aller en Libye ensuite. Et donc l'Europe, dans sa volonté aujourd'hui de limiter les flux migratoires, ne semble pas particulièrement volontariste pour condamner les actions des responsables de ce régime. Par contre, il y a quand même quelques petites différences. C'est-à-dire que l'Europe continentale est très frileuse. Les Anglais, Norvégiens, ailleurs, sont quand même nettement plus fermes avec le régime. Alors, il n'y a pas de sanctions, de choses comme ça, mais au moins les discours ont été plus fermes. Les Français, Allemands et autres pays, Italie également, sont restés très silencieux. Ils ont condamné seulement après le massacre du 3 juin les actes de l'armée, mais sans s'impliquer beaucoup plus. On a eu une implication plus forte des Anglais, des Américains, de d'autres pays, mais en tout cas pas de l'Europe.
Il y a un autre axe à l'international qui lui se tient en alerte, et c'est l'axe qu'on appellerait l'axe contre-révolutionnaire, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Représente-t-il un danger aujourd'hui pour les révolutionnaires soudanais ?
Il représente un danger depuis le début pour les révolutionnaires soudanais, comme un peu partout dans cette région-là. Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite surtout, parce qu'en fait l'Égypte est un pays important dans la région, mais financièrement étranglé, donc n'a pas les moyens de vraiment peser sur le jeu. Alors, ils ont envoyé des conseillers, il y a eu des conseillers du renseignement militaire égyptien qui ont été envoyés au Soudan, mais ça reste relativement marginal. Le coup le plus important vient des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, qui ont promis 3 milliards de dollars dès le lendemain de la chute de Béchir au gouvernement de transition militaire pour s'assurer que ça n'aille pas plus loin. Donc une partie sous la forme de dépôts directement dans la banque centrale pour rétablir un petit peu les liquidités, parce qu'il y a un gros problème de liquidité au Soudan aujourd'hui. Et également sous forme de livraison de militaires. Donc une partie des soldats, donc des miliciens dont on parlait, ont été réarmés par notamment les Émirats Arabes Unis. Donc évidemment, il y a un soutien qui est très fort. Il y a un soutien qui est très fort du fait de la guerre, notamment au Yémen. C'est-à-dire que sans la guerre au Yémen, ce soutien serait moins fort. Et en fait, ce qui semble intéresser désormais l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis notamment, c'est de se constituer cette petite armée privée que sont les paramilitaires, les RSF, dans la région pour pouvoir peser sur le jeu de la région. Puisqu'on a entendu là ces derniers jours que le Soudan allait probablement envoyer des troupes pour soutenir le général Haftar en Libye, et ces troupes seront les RSF, donc les Rapid Support Forces. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est dealé avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis derrière, pour soutenir la politique dans la région. Donc en soi, le Soudan n'est pas nécessairement un enjeu en tant que tel pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mais par contre, ce sont les hommes, les militaires soudanais qui le sont. Il y a quelques enjeux économiques, mais en fait, qui sont relativement périphériques.
Quel est le rapport de force finalement entre, dans cette nébuleuse militaire, entre les militaires, les paramilitaires et toutes les autres forces?
C'est très compliqué de savoir, parce que au Soudan, vous avez un nombre de forces armées qui est vraiment très impressionnant. Vous avez donc les anciennes ministres du parti au pouvoir, dont on n'entend plus parler, mais c'était plusieurs dizaines de milliers d'hommes en armes, on ne sait pas où ils sont. Vous aviez les forces de choc et donc les ministres liés à la sécurité intérieure, qui, c'est pareil, ont momentanément disparu, mais sont toujours dans le pays. Vous avez les miliciens du Darfour et vous avez une armée soudanaise qui est composée d'un peu plus de 200 000 hommes. Donc vous avez énormément d'hommes en armes avec des allégeances qui sont parfois contradictoires. C'est extrêmement difficile de savoir, c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On sait que une partie des officiers de rang et des soldats de base ne sont pas forcément favorables au régime actuel. Ils ont été envoyés en région. On sait qu'il y a des régiments qui ont été désarmés, qui ont été envoyés en région pour s'éloigner de la contestation. On n'en sait pas beaucoup plus. On sait qu'il y a un certain nombre d'officiers, de jeunes officiers notamment, qui ont été arrêtés parce qu'ils auraient voulu tenter de renverser ce régime. Donc aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est que depuis avril, le TMC, donc le Transitional Military Council, a fait un petit peu le ménage. Ils ont arrêté un certain nombre d'officiers. Ils ont mis à la retraite aussi des officiers, une centaine d'officiers d'office, pour éviter la contestation interne. Aujourd'hui, on a l'impression que l'axe du pouvoir est basé sur une partie de l'armée avec ses Rapid Support Forces, ses miliciens. Il semble que les autres milices soient pour l'instant écartées du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réagiront pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'armes. Donc ça, c'est encore une question en suspens pour le futur du Soudan.
Mais en tous les cas, l'accord signé donc vendredi 5 juillet, donc entre ce Conseil militaire de transition et les forces de l'opposition, c'est un moyen de se racheter une virginité à l'international pour l'armée.
Bien sûr. Là, apparemment, de ce que les militants soudanais disent, il y a eu des pressions très fortes sur les militaires en provenance de l'Union africaine et des États-Unis pour que ce deal, cet accord, soit accepté par les militaires. Donc les militaires n'en voulaient pas. Ils ont été poussés à l'international parce qu'ils étaient dans une position qui n'était plus tenable. Et donc, ils se rachètent une image à l'international. Personne n'est évidemment dupe. Ça permet de sauvegarder les intérêts de beaucoup de gens, mais pas forcément ceux de la contestation et du peuple soudanais.
Merci Clément Dé pour cet éclairage. À très bientôt sur Mediapart pour un nouveau numéro de Un monde à vif.